Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 avril 1916, les Pâques rouges de Dublin. En juillet 1913, une grève industrielle éclate à Dublin. Elle dure 6 mois. Elle préfigure les Pâques rouges de 1916. L'histoire de l'Irlande et de l'Angleterre est celle d'un antagonisme entre deux peuples, proches, voisins, qui ne reconnaissent entre eux aucun lien de confession, de tradition, de langue et de tempérament. Chaque époque depuis la conquête de l'Irlande au XVIe siècle par Henri VIII est marquée par des soulèvements suivis de mesures de répression génératrices à leur tour de nouvelles révoltes. Au début du XIXe siècle, l'acte d'union incorporant l'Irlande à l'unité britannique, composée de l'Angleterre, de l'Écosse et donc de l'Irlande, ou Union Jack, semble lui accorder une certaine souveraineté nationale. En fait, l'union marque surtout l'achèvement de l'unité britannique et assure la mainmise de l'Angleterre sur un pays qu'elle traite en véritable colonie. Pourtant, vers la fin du XIXe siècle, un esprit plus libéral souffle à Londres, avec la proposition du Home Rule, présentée par le Premier ministre Gladstone au Parlement. En Irlande, les promoteurs du Home Rule sont Parnell et Isaac Butt. Il doit permettre l'autonomie interne de leur patrie et constitue un compromis honorable et provisoire, ouvrant la voie à une complète libération. L'Irlande possède désormais une double représentation, l'une à Dublin pour les questions intérieures, l'autre à Westminster pour toutes les affaires touchant à la souveraineté de l'Empire. Des catholiques peuvent même y siéger alors que de tout temps leur exclusion était la règle et que tout accès aux fonctions publiques est conditionné à l'appartenance à l'Église anglicane. Hélas, le remède est pire que le mal. Il crée la division jusque dans les rangs nationalistes où les habitants de l'Ulster, protestants et fortement anglicisés, demeurent favorables à l'Union. Et dans les autres régions, entre modérés, partisans de la conciliation et extrémistes républicains, groupés dans le Sinn Féin, expression qui en gaélique signifie « nous seuls ». Ces oppositions génèrent une longue suite de discordes, de soulèvements et d'attentats politiques. Dans ces premiers temps, la Première Guerre mondiale opère une détente dans les relations entre l'Angleterre et l'Irlande. Plus de 200 000 volontaires irlandais contractent un engagement dans l'armée britannique. Ils se distinguent dans les Flandres et aux Dardanelles. Cependant, les Anglais interdisent la présence d'officiers catholiques dans les divisions irlandaises qui ne peuvent pas arborer leurs fanions ou des étendards aux couleurs nationales. Le ressentiment grandit parmi les Irlandais. Les nationalistes jugent que l'heure de la lutte a sonné. La situation critique des armées alliées au printemps 1916 rend l'Angleterre plus vulnérable. Les Irlandais sollicitent du gouvernement allemand l'envoi d'armes. Il consent à fournir 20 000 fusils Mosers transportés par un chalutier commandé par le capitaine Kurt Spindler, qui fait face à la Royal Navy au large de la côte de Kerry. Refusant de livrer sa cargaison, il saborde son embarcation. Malgré cet aléa, le lundi 24 avril 1916, 1200 volontaires répondent à un ordre tardif de rassemblement en vue d'une prétendue manœuvre dans les rues de Dublin. Peu avant midi, des coups de feu retentissent. Guidés par leurs officiers, de petits groupes de militants se dirigent vers l'hôtel des postes dont ils s'emparent facilement. Le bâtiment est seulement gardé par 2 sentinelles armées de fusils non chargés. Le drapeau vert, blanc et orangé de l'État libre d'Irlande est déployé sur la façade. Une proclamation nationaliste est lue. Au nom de Dieu et des générations mortes dont elle reçoit la vieille tradition nationale, l'Irlande, par notre voix, appelle ses enfants à son drapeau, soutenu par nos frères exilés en Amérique et par nos vaillants alliés d'Europe, Nous déclarons que le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et à la libre détermination de sa destinée est souverain et imprescriptible. Les insurgés marchent vite vers le château où réside le vice-roi et siège le gouvernement général. Ils le prennent sans véritable combat, mais l'abandonnent soudainement sans raison. Ils occupent également les gares, le palais de justice, la faculté de chirurgie et plusieurs usines. Alertées, les troupes anglaises avancent maintenant vers le centre-ville. Elles se heurtent aux renforts nationalistes venus de la campagne. Les combats durent 5 jours, faisant de nombreux morts et blessés. Retranchés dans le collège de la Trinité, dans l'hôtel Shelbourne, qui domine St. Stephen Street, les contingents anglais débarqués à la suite du général Sir John Maxwell repoussent les assauts. Reprenant l'initiative, ils délogent les insurgés de leur position et avancent entre les immeubles incendiés parmi les ruines fumantes. Ils tirent sur les hommes armés, mais aussi sur les pillards, les femmes, les enfants, les vieillards. Cernés, les insurgés épuisent leur ultime munition avant de capituler. La rébellion se solde par une lamentable défaite. Les combats font 3000 tués ou blessés. Environ 3500 nationalistes sont arrêtés, dont Thomas Clarke, président du gouvernement provisoire irlandais, et les signataires de la proclamation lue devant l'hôtel des postes. Détenus dans un parc public, les prisonniers attendent sous une pluie glaciale le jugement de la cour martiale qui les condamne à mort. Le 3 mai 1916, les 7 condamnés à la peine capitale sont passés par les armes. Les autres, dont Eamon de Valera, qui deviendra le premier président de la République irlandaise, sont incarcérés. Confrontée à la détermination des nationalistes irlandais, l'Angleterre cède en 1921. Le traité de Londres conduit à la proclamation de l'indépendance de la majeure partie de l'île qui devient la République de l'air. Nous retrouvons Historama pour la chronique littéraire Un jour trois livres préparée par Emmanuel, comme de tradition, dans un instant. Après une pause musicale, nous écoutons Jean Ferrat, Nuit et brouillard, extrait de l'album éponyme en décembre 1963. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, ce sera 4 aujourd'hui, préparés par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons avec Mortel Pourim de Annette Ferne aux éditions du Verger dans la collection Les Enquêtes Rhénan. À Strasbourg, nous sommes en août 2020 au théâtre de la Choucrouterie. Une troupe d'amateurs prépare le Megillé Didzik, cycle poétique parodique inspiré du livre d'Esther, lu chaque année dans les synagogues lors de la fête de Pourim. En pleine répétition, un fauteuil suspendu au-dessus de la scène tombe et tue Amos Jergovitz, le metteur en scène. Simple incident ou crime prémédité? Voici le troisième polar d'Annette Ferne, intégrant à la fois le style d'un roman policier, l'humour et la découverte de la culture juive en Alsace. Mortel Pourim de Annette Ferne, c'est aux éditions du Verger, dans la collection Les Enquêtes Rhénan. Joséphine Becker de Jacques Pessy, chez Gallimard, dans la collection Biographie de Folio. J'étais l'idole sauvage dont Paris avait besoin. Après 4 années de violence, j'ai symbolisé la liberté retrouvée, la découverte de l'art nègre, du jazz. J'ai représenté la liberté de me couper les cheveux, de me promener nu, d'envoyer tous les carcans au diable. On ne retient souvent de celle qu'on surnomma la Vénus d'Ébène que son apparition fracassante au théâtre des Champs-Élysées dans la revue Nègre, c'était en octobre 1925. Tout le monde connaît sa fameuse ceinture de banane et sa chanson fétiche « J'ai deux amours ». Mais il est une autre Joséphine Becker. Née en 1906, décédé en 1975, égérie des cubistes, exportatrice du jazz qui se mobilise pour la Croix-Rouge, s'engage dans les services de renseignement des forces françaises libres, milite contre le racisme, adopte 12 enfants de toute origine afin de donner l'exemple de la fraternité universelle. Nous allons donc à la rencontre de cette Joséphine engagée, chaleureuse, se trompant parfois même gravement, mais aussi la première femme noire à entrer au Panthéon. Au milieu de cette biographie, vous trouverez une belle iconographie. Joséphine Baker de Jacques Pessy, c'est chez Gallimard dans la collection Biographie, chez Folio. L'invisible partout de Wu Ming aux éditions Métayer. Pendant la Première Guerre mondiale, dans le brouillard des tranchées, quatre points de vue de combattants qui veulent s'évader de leur quotidien. Quatre destins qui oscillent des deux côtés de la frontière entre l'Italie et la France. Quatre manières d'adopter des stratégies pour s'évader de l'horreur. Un paysan qui cherche à donner un sens à sa vie grise en intégrant un régiment d'élite. Un soldat qui simule la folie pour échapper au champ de bataille. Un jeune dandy français, le mythique Jacques Vacher, qui va être le précurseur du surréalisme en envoyant des lettres à André Breton depuis le front. Un peintre italien envoyé en France pour apprendre les techniques du camouflage. Un roman unique sur le lien inédit entre le surréel, l'art et la guerre. Quand l'imagination et l'utopie répondent à la plus grande violence, avec de beaux textes mélancoliques, littéraires, débordant d'imagination, le collectif d'écrivains italiens Wu Ming nous donne des visions éclairantes sur la Grande Guerre, à lire et à relire. L'invisible partout, c'est signé Wu Ming aux éditions Métayer. Et enfin, pour terminer cette chronique, le cercle de Lady Tan, c'est signé Lisa Si aux éditions Albin Michel. Si l'on en croit Confucius, une femme instruite est une femme inutile. Pourtant, Yuxian Tan, née dans une famille des plus éminentes, est élevée par ses grands-parents justement pour être utile. Sa grand-mère est l'une des rares femmes médecins en Chine et elle lui enseigne les quatre piliers de la médecine chinoise. Dès l'enfance, Yuxian se familiarise avec les maladies féminines, souvent liées à la maternité, aux côtés de Mei Ling, une jeune sage-femme en formation. Animées par une même vocation, toutes deux se promettent de rester amies pour toujours, partageant leurs joies et leurs peines. Mais lorsqu'est imposé à Yuxian Tan un mariage arrangé, il lui est interdit de revoir Mei Ling et d'apporter son aide aux femmes et aux filles de la maison. Elle doit se conformer à son rôle d'épouse, donner naissance à des garçons et passer le reste de sa vie entre les murs de la propriété familiale. Elle va devoir se libérer de ce carcan, s'affranchir des traditions et mener une carrière d'une importance telle que nombre de ses remèdes sont encore utilisés 5 siècles plus tard. Le cercle de Lady Tan, c'est signé Lisa Si et c'est publié aux éditions Albin Michel. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Jean Ferrat. Nous écoutons « C'est beau la vie », extrait de l'album « Nuit et brouillard » paru en décembre 1963. «